on les appelle zèbres, HPI, haut potentiel, neuroatypiques, surdoués ou même encore philo-cognitifs. Les idées reçues sur ce sujet très médiatisé sont aussi nombreuses que les mots pour les nommer. D'autant qu'il n'existe pas de profil type et que la psychologie des HPI fait débat, même entre experts. Alors, qui sont ces drôles de zèbres? Est-ce plutôt une chance ou un handicap? Pourquoi décider de passer un test de QI? Et comment apprivoiser ces rayures? Heureux et surdoué, zèbre ou HPI, est le podcast qui explore le haut potentiel pour vous aider à mieux vivre le vôtre. Je m'appelle Sylvie Richard et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace bienveillant où vous pourrez écouter mes conversations avec d'autres atypiques qui racontent comment ils ont vécu ce moment si particulier de leur vie. Aujourd'hui, je vous propose le témoignage d'une auditrice, Laure Bruand, qui a découvert il y a un peu moins d'un an qu'elle était, elle aussi, concernée par le haut potentiel. Après avoir passé sa vie à s'intéresser à la connaissance de soi jusqu'à en faire son métier, elle n'imaginait pas faire une telle découverte pour elle-même. Elle nous raconte son histoire dans ce 47e épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Laure, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast.
Bonjour, je suis ravie d'être là avec toi aussi, puis avec les auditeurs par la même occasion.
Ouais, les auditeurs à venir, aujourd'hui on est le 13 novembre donc, et ça fait très longtemps que j'ai pas enregistré d'épisode, donc je suis ravie, comme je te le disais en off, juste avant de commencer l'enregistrement. Je suis ravie de ce nouvel enregistrement, j'ai hâte de découvrir ton histoire, et je suis contente que ça se fasse avec toi par rapport à ce que tu m'as raconté. Je pense que ça va être chouette.
Merci, bah écoute, moi je suis un peu interrogative, bien que ce soit moi qui dois répondre aux questions, d'ailleurs c'est un peu marrant, mais voilà, je suis à la fois très contente, excitée et un petit peu en questionnement sur ce qu'on va se dire.
Ouais, non mais c'est souvent le cas en fait, c'est souvent le cas au début des enregistrements. Souvent après c'est « Ah mince, j'ai pas pensé à dire ça
!» Oui, j'en doute pas.
Mais oui, je te remercie en tout cas d'avoir déjà pris l'initiative de me solliciter, de me contacter, de me raconter un petit bout de toi, le temps qu'on a consacré, qu'on s'est consacré toutes les deux aussi par téléphone. Et puis voilà, le moment qu'on partage ce soir toutes les deux, ça fait plusieurs fois qu'on essaye de se caler ce moment, et c'est chouette qu'on y arrive. Donc, on va parler, bien sûr, je vais te questionner assez rapidement sur comment ça s'est passé pour toi, c'est quoi les circonstances de la découverte de ton haut potentiel. Et pour les auditeurs aussi, je me souviens d'une petite anecdote dans ton message que tu m'as envoyé, dans ton mail. Il y avait quelque chose qui m'avait fait beaucoup sourire, hein, peut-être parce que ça faisait un petit peu écho à ma propre histoire, mais tu m'as écrit que tu étais la première surprise en fait de toi-même, de cette révélation, et que tu étais aussi étonnée d'arriver encore à te surprendre. Tu
vois. Oui, je me suis dit, bon, parce que ça a été quand même un gros choc, un gros chamboulement, mais on pense, enfin, je pense toujours plein de choses en même temps, donc je me voyais être choquée, chamboulée, et je me disais, waouh, c'est quand même génial d'être encore surprise. Parce que donc, je venais d'avoir 50 ans quand j'ai appris ça. Et donc, je m'étais jamais posé cette question-là. En fait, c'est venu un peu comme un cadeau. Moi, je dirais que c'est un cadeau aujourd'hui de l'apprendre. C'est venu comme un cadeau que j'avais pas demandé. Et donc, j'étais 100% surprise. Vraiment. Je me suis rendu compte peut-être... 2 heures avant de passer le test, que j'allais passer le test. Bon, il y a une grosse part de déni là-dedans, mais donc c'était une vraie, voilà. Donc ça a été de ce fait très choquant parce que pas vraiment de temps de préparation, aucun travail qui s'était fait en amont d'intégration, de renseignement. Je savais pas du tout ce que c'était, etc.
T'es même pas allée creuser sur Internet.
Non, mais je savais pas, puisque je savais pas ce que j'allais apprendre. Je savais pas du tout ce que je cherchais. Je ne cherchais pas. Enfin, c'était C'était marrant, je cherchais pas et en même temps j'ai eu l'impression d'avoir posé mon sac en mode bon bah c'est plus la peine de chercher, t'as trouvé après. Mais bon, il faut quand même dire pour la petite histoire et parce que c'est vraiment très drôle que donc je fais de la formation et du coaching depuis hyper longtemps, que je me suis toujours intéressée à pourquoi on est qui on est, comment on peut être différent, qu'est-ce qui fait de nous qui on est. Enfin bon, c'est mon sujet de prédilection depuis longtemps. Je ne m'étais jamais intéressée au QI. Je savais même pas quel était le QI moyen. Enfin bon, je savais bien vaguement cette histoire du groupe de Gauss. Moi. Bref, je...
Mais pas pour toi.
Quand tu nous tiens, quoi. Non, mais incroyable. C'est-à-dire que c'est un sujet qui aurait pu faire partie quand même de ce à quoi je m'étais intéressée depuis toutes ces années. Pas pour moi, mais pour dans le cadre professionnel, j'entends, ou de culture générale. Et je pense pas que ça soit un hasard que ça n'ait pas été le cas. Donc, je suis arrivée complètement neutre, vierge de toute information, de tout. Enfin, je ne savais pas ce que ça pouvait revêtir comme champ complètement différent. Parce qu'en fait, on parle pas du... Moi, la question du... C'est pas le QI qui m'intéresse là-dedans, c'est tout ce qu'il y avait autour de fonctionnement, en lien avec les émotions. Enfin, vraiment, et ça, je savais pas du tout. Donc, moi, j'ai appris ça. Et après, j'ai fait des recherches pour savoir de quoi on me parlait exactement.
Ouais. Voilà. Ça fait pas longtemps que tu l'as passé.
Non, c'était tout début décembre de l'année dernière. Mmh. Ah ouais, et c'est vraiment tout nouveau.
Ouais. Tu peux nous raconter comment c'est rentré dans ta vie, en fait, cette histoire, puisque justement, tu expliques que tu y pensais pas pour toi, même professionnellement, tu n'avais pas encore envisagé ce sujet-là. Donc, comment ça se fait que finalement tu t'es retrouvée sur la chaise devant la psychologue pour passer le test?
Incroyable. Parce que j'ai une amie qui est psy, que j'aime beaucoup, et à qui je disais 15 jours avant, je passe, j'avais été la voir, et puis quand même j'étais dans une période très difficile. L'année dernière, c'était difficile pour moi. Au printemps même, je me suis dit, bon, on veut jamais trop... pas se victimiser, mais disons qu'on se dit toujours non, peut-être pas quand même, mais je me disais peut-être que je pourrais être en pré-burnout, quoi. Enfin, j'étais vraiment, c'était compliqué pour moi, et j'étais fatiguée en plus, et j'avais fait une petite dinguerie avec ma voiture, c'est-à-dire que je m'étais garée et au lieu de freiner, mon pied, parce que c'est pas moi qui ai décidé ça, c'est mon pied tout seul, au lieu de freiner au dernier moment, je roulais plus, j'avançais à peine, à accélérer.
D'accord. Donc t'as percuté la voiture devant.
C'était un lampadaire, juste devant chez moi quand même. Mais bon, parce qu'après mon cerveau a réagi, la voiture ne fait pas ce que je lui demande, donc j'ai pilé. Mais bien sûr, j'ai pilé pas sur la bonne pédale. Bref, là, je me suis dit, quand même, ça va pas trop, hein. Et j'ai tout de suite pensé charge mentale, psy, etc. Bon. Donc, j'étais dans cette énergie-là, en me disant, va peut-être falloir quand même que je prenne un peu d'aide. Là, ça commence à être compliqué. Et je vois cette copine-là, je papote avec elle, et je lui parle de ça. Je lui dis, écoute, là, c'est dur pour moi. Puis je lui dis, quand même, si je réfléchis bien, ça a toujours été un peu dur. C'est-à-dire que tout va bien. Mais je dépense plein d'énergie, quoi, pour être heureuse. Je m'en rends bien compte depuis toujours, mais je suis heureuse. Mais je sens bien que ça me coûte. Et c'est là qu'elle me dit comme ça, elle me dit, oh, bah, tu sais, moi, quand même, depuis que je te connais, ça fait pas hyper longtemps que je la connais. Elle me dit, je sais pas, j'ai envie de te proposer des tests, t'en dis quoi? Je lui dis, oh, ouais, j'adore. Parce que moi, j'adore, bien sûr. Moi, j'en fais aussi. Je travaille beaucoup sur la connaissance de soi avec mes participants, les gens que j'ai en coaching, etc. Donc, j'utilise plein d'approches différentes. Donc, je lui dis, oh, bah ouais, pourquoi pas.
Ouais, et puis, c'était toi qui passais le test au lieu de le faire passer. Tu changeais de casquette.
Exactement. En fait. Ouais. Exactement. Puis, je suis curieuse sur ces trucs-là. Donc, j'adore. Donc, je lui dis, ouais, ouais, génial. Bon, bah, super.
C'est avec quelqu'un qui t'aime bien.
Exactement.
Avec confiance, ouais.
Exactement, je repars de là, c'était une petite soirée, je crois qu'on passait ensemble, je repars. Entre-temps, j'avais mon anniv, ma fête pour mes 50 ans, elle était là aussi à cette fête-là. J'y pense pas, et on prend rendez-vous tout de suite quand même, hein, dans 15 jours.
Mais elle t'a pas parlé du tout, elle t'a parlé de test, mais...
Oui. Je crois pas qu'elle ait dit, j'en ai reparlé depuis, je lui ai demandé, elle se rappelle plus. Mais
non plus.
Moi, je crois pas qu'elle ait dit QI. Moi, si elle l'a dit... J'ai volontairement pas entendu. Ouais. Mais je crois pas. Et puis, c'est le matin même, on déjeunait ensemble, et puis ensuite, elle me faisait le test. C'est le matin même, 2 heures avant, je dirais bien, que ça commence à me travailler. Mais ça me travaille en mode, là, je me dis, attends, mais en fait, elle va te faire des tests de QI. Parce que là, ça me paraît évident d'un coup que c'est ça dont elle me parlait. Sachant que, très bizarrement, consciemment, je n'y ai pas pensé pendant ces 15 jours. C'est vraiment incroyable. Enfin, voilà, c'est ça. J'avais pas envie de me demander ce que c'était, quoi. Et c'est là que j'en prends conscience. Et là, d'un coup, je me mets à flipper. Parce que je me dis, bon, si je suis bête et que donc, les résultats, c'est pas qu'ils sont pas bons, il n'y a pas d'être bon ou pas bon dans ces résultats-là, mais qu'elles décèlent quelque chose d'anormalement bas, ma copine va être très mal. Donc, c'est-à-dire, c'est juste mon empathie là qui parle. C'était pas par rapport à moi. Je me dis, mais oh, la pauvre, ça se trouve, ça va être horrible. Enfin, elle va peut-être se trouver dans une situation délicate pour elle. C'est à ça que je pense. J'arrive chez elle avec, j'avais amené du Jap, je crois, je me rappelle, enfin, on allait passer un bon petit moment au démarrage. J'arrive chez elle et je lui dis, bah, comme je t'ai un peu dit, que ça me stressait un petit peu là, je pose mon truc sur la table. Je lui dis, oh, faut que je te dise quand même que là, ça me stresse, je viens de réaliser ce qui va se passer, tout ça. Elle me dit, oh, t'inquiète, c'est normal. On déjeune. On se boit un petit verre de vin, ou deux petits, pas des gros, mais des petits. Enfin, bref, on prend du temps à déjeuner. Et au bout d'un moment, elle me dit, on y va. Et puis après, elle m'a fait passer le test. Donc, entre-temps, évidemment, qu'entre le matin où j'ai commencé à réaliser, presque seulement dans la voiture en allant chez elle, et la passation du test, je sais pas du tout de quoi ça parle vraiment. Enfin, dans un coin de ma tête, je me doute peut-être que c'est qu'elle pense qu'elle va trouver peut-être quelque chose, et que c'est ça qu'elle pense avoir décelé, puisqu'elle me dit, ça fait un moment que... Mais j'y connais rien, quoi. Je sais pas ce que ça voudrait dire, quoi.
Ouais, t'avais pas assez d'informations à ce moment-là pour évaluer l'impact que ça va avoir
complètement.
En fait, sur l'avenir, ouais.
Ah oui. Et surtout, je sais pas comment dire ça. De quoi on va parler vraiment? Et à nouveau, je parle pas de QI, je parle de tout le reste. J'en ai aucune idée de ça. C'est-à-dire ce que ça peut mettre en évidence ou pas, je ne le sais pas. Alors, elle me fait passer le test, je m'éclate, mais j'adore. Enfin, franchement, les petits jeux comme ça, moi, je suis à fond, quoi. Donc, j'étais à fond. Et je dois avouer que pendant que je le passais, à un moment, alors, évidemment, j'analysais tout son non-verbal, donc par moments, ça me perturbait vachement. Notamment tous les trucs de mémoire là où je voyais dès qu'elle faisait un truc, j'arrivais plus à écouter ce qu'elle me disait parce que je suis en train de penser mais ça veut dire quoi la tête qu'elle fait là. Enfin, donc ça m'a permis de me rendre compte quand même qu'au niveau de mon attention peut être perturbée par pas mal de choses quand il y a de la relation.
Ouais.
Tu vois, je fais des allers-retours, okay. Moi, l'autre, tout ça, tout le temps.
Ouais, parce que t'es connectée à l'autre.
Ah bah ouais,
complètement. Tu vas capter plein d'informations.
Ouais, et pour une partie des tests qui était sur, je te dis des chiffres, tu les redis, etc. Il faut que je sois hyper concentrée. Alors quand ça devenait un petit peu plus compliqué, ça allait mieux parce que du coup j'étais de fait, il y avait comme un petit intérêt quand il fallait les redire à l'envers ou je sais pas quoi, mais le truc de base, je me rendais bien compte que, et puis je voyais sa tête, enfin bref, et à un moment, elle me dit, pendant le test, elle me dit « Purée, toi, t'es une challengeuse. Hein. » Alors, je me dis, je sais pas ce que ça veut dire, mais moi, j'ai toujours pensé dans ma vie que j'aimais pas du tout les challenges, j'aime pas du tout spécialement gagner. Mais elle me dit ça. Et en même temps que je le faisais, du coup, j'analysais « Mais pourquoi elle m'a dit ça ?» Et je me rends compte que c'est vrai que je le fais pas du tout pour rigoler. Ouh là là !
Ouais, tu le fais, soit tu le fais clair, quoi.
Là, je le fais, je suis à fond, quoi, dans le truc. Et donc, voilà. Et elle me l'a, parce que c'est quelqu'un que je connais. Donc, l'anamnèse, en fait, on n'a même pas eu un rendez-vous avant, mais parce qu'elle, elle me l'a déjà fait. Depuis qu'on se connaît, donc elle n'avait pas besoin d'aller valider, voilà. Et elle me fait le bilan tout de suite. Elle me laisse pas repartir comme ça. Et elle corrige. Bon, elle est, c'est une tueuse. Hein, donc, elle corrige tout en quasi en même temps. Et elle me débrief. Elle me parle de mon QI et de mon potentiel ou au potentiel ou pas. En tout cas, elle me parle de cette courbe et de les zones de la courbe, alors que je savais pas qu'on allait faire ça. Et je savais pas trop ce que ça voulait dire. Donc, j'ai vraiment, j'étais liquéfiée. Amélie Poulain, qui se transforme en flaque d'eau, là. J'étais dans un état de choc et de stress émotionnel, enfin.
Dès la restitution?
Alors là, j'ai pleuré. Enfin, j'avais des larmes qui coulaient, mais j'étais en choc. En fait, voilà, j'étais en très gros choc. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est pas mon QI en lui-même, puisque je savais rien. Enfin, je m'en foutais. Puis j'ai 50 ans, je m'en fous. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je m'en fous. Je veux dire, ma vie, elle est pas finie, bien sûr, mais je suis pas en train de faire mes études ou je sais pas quoi. Enfin bref, il y a pas un enjeu de folie autour de mon QI. Mais non, c'était le pourcentage de gens qui étaient comme moi. Alors comme moi, pas complètement comme moi, on est tous différents, mais bref, puisqu'on fait que comparer dans ces histoires de QI, on compare avec une norme. D'un coup, j'entends, je suis pas du tout normale, mais j'avais jamais imaginé que j'étais pas normale, mais bien sûr que je suis normale, mais bon, bref. En tout cas, elle, puisqu'elle parle de normes, elle me sort d'une norme et elle me colle dans un groupe infiniment petit, des gens de mon âge. Hein. Elle me dit, je sais plus, 0,1% des gens de ton âge. Bah là, c'était vertigineux, quoi. Parce que je me suis dit, en fait, je suis toute seule, je me prends ça en pleine face, sans l'avoir imaginé, sans...
Est-ce que ça faisait écho, en fait, à un sentiment de solitude que tu avais pu ressentir peut-être d'autres fois dans ta vie avant?
Non. Oui. Les deux. J'ai envie de te dire. Je me suis jamais sentie, parce qu'après j'ai lu tous les bouquins, etc. Non, je me suis pas sentie hyper différente de tout le monde. On peut pas dire, parce que je suis extrêmement sociable. Donc, dans mon mode de fonctionnement, je pense que j'ai un mode de fonctionnement qui fait que ça a complètement pu passer inaperçu au niveau relationnel avec les autres. Mais oui, en même temps, oui. Et en même temps, j'en prends conscience à ce moment-là ou à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que oui, quand même, dès que j'étais petite, j'ai toujours fait beaucoup pour faire partie du tout. Tu vois, dépenser d'énergie pour être dans le... Alors, petite, pour être aimée par mon ami, qui était mon ami. J'étais plus fragile, tu vois, ouais. Et je faisais des efforts pour... que répondre aux attentes de l'autre très jeune, tu vois. Là, je pense à amis, hein, je parle pas de mes parents parce que je suis pas sûre d'avoir senti ça avec mes parents, mais quand même, si, un surmoi très très développé quand même, quoi. Et collège, pour être dans le game, pour je sais pas le dire autrement, tu vois, pour être in là, pour être, bah ouais, ça me demandait un peu d'énergie, quoi. Je vois bien. Mais j'ai jamais été seule, hein. J'ai toujours été entourée.
Mais tu t'es pas sentie isolée?
Ah non, pas du tout. Mais pas du tout. Ceci dit, j'étais isolée quand même. C'est-à-dire, ce que je vivais, les difficultés que je l'avais, je les partageais pas, puis j'avais pas l'impression qu'elles étaient forcément partagées. Mais tu vois, aujourd'hui, à la lecture de tout ça, vraiment, quoi, le faux self à fond, sans en parler, sans pouvoir partager ça. Donc je pense que j'ai toujours eu conscience de ce qui se passait quand ça se passait. Ça, c'est clair. Et là où je pouvais effectivement me sentir seule, c'est qu'il n'y avait pas de partage autour de ça. Avec quiconque. Et d'ailleurs, ma copine qui m'a fait passer le test, elle m'a proposé de me faire passer le test quand clairement, je lui ai dit, depuis l'adolescence, je dépense beaucoup d'énergie, c'est ça, pour être heureuse, tu vois. C'est-à-dire que la vie telle qu'elle est proposée, qui coule de source, tout ça, bah, ça a jamais complètement coulé de source, mais j'ai pas aucune difficulté particulière, je sais pas comment dire. J'ai pas eu de difficulté, mais c'était quand même fatigant, quoi. Voilà, je peux pas le dire autrement que ça.
T'as pas eu de difficulté particulière, mais du coup, qu'est-ce qui faisait que tu avais ce sentiment, enfin, ou même plus qu'un sentiment, hein, cette sensation de vraiment de dépenser plus d'énergie que les autres. Pourquoi toi plus que les autres?
Bah, je sais pas ce qui rendait tout le monde content. C'est moi, je trouvais pas le remplissage, mais c'est pas ça. Mais tu vois, l'épanouissement, le bonheur, là où il avait l'air d'être facile pour tout le monde. Mais encore maintenant, hein. Quand je papote des fois avec certaines copines, elles sont contentes de trucs. Je suis hyper contente pour elles. Mais moi, juste ça dans ma vie,
ça te suffit pas.
Ah, pas du tout, mais du tout, du tout. Tu vois, donc j'avais toujours l'impression que bon, bah ok, et alors, ah ouais, c'est ça. Et même quand avec mes enfants petits, parce que donc moi j'étais mariée pendant 20 ans, j'ai mes deux enfants fabuleux, que j'aime énormément, qui me le rendent bien, enfin bon, donc aucun problème avec eux. Mais dès qu'ils étaient petits, je me rendais bien compte que j'allais pas être, ça allait pas me nourrir d'être la mère qui fait les gâteaux au chocolat pour l'école, quoi, tu vois, et qui se surinvestit dans la kermesse. Oh, moi c'était la grosse contrainte, tu vois. J'étais pas dans le modèle classique. Heureusement, là, j'ai rencontré une amie qui m'est très très chère, qui est comme moi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien, mais on est pareil. En tout cas, ça c'est sûr, et qui était pas politiquement correct là-dessus, donc on pouvait bien se marrer, puis tu vois, et parler de ça, parce que moi, les réunions...
Sans culpabiliser, exemple, ouais.
Ouais, complètement, puis il y a les franco, quoi.
Ouais.
Tu vois, pour rigoler avec ça, sans culpabiliser. Moi, les réunions d'école, le truc de parents d'élèves, je me suis forcée une fois, je me suis dit, une bonne mère, elle a fait, tu vois, elle est parents d'élèves, elle se tape les réunions. Oh, c'était une torture.
Sur une chaise de...
Oui.
De 10 cm par 10 cm.
À entendre la nana de la mairie
en bois,
dire qu'il y avait 47 personnes inscrites à la cantine. Mais en fait, je m'en foutais complètement. On parlait pas de pédagogie, on parlait rien d'intéressant. Ouais. Tu vois, bon, bref. Et puis, bon, tout ça.
Et du coup, comment tu as, c'était quoi tes sources de bonheur? Parce que tu dis que c'était, ça te paraissait, ça te coûtait en énergie, mais comment t'y parvenais?
Je sais pas trop. Et je saurais pas trop dire si j'y suis vraiment complètement parvenue. J'ai des moments, j'ai une bonne propension à me créer des moments, j'allais dire insignifiants, enfin, des moments de bonheur et des petits bonheurs du quotidien qui, mis bout à bout, ah, mais c'est génial, tu vois, avec tel ami, d'aller se manger, hop, petite pub, un 2000 feuilles Pierre Hermé. Petite pub pour Pierre. Tu vois, d'aller à un concert, machin, de me projeter. Mes bonheurs, ça a souvent été de me projeter dans des choses qui me font du bien. Et notamment, moi, c'est beaucoup le voyage, quand même. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que depuis toute jeune, je me rends bien compte que j'ai un besoin d'évasion.
Ouais. On en avait parlé, je me souviens.
Voilà. Et vivre la vie qu'on vit, que je vis au quotidien, qui est une belle vie, c'est vraiment ça que je veux dire. J'ai une belle vie. Et j'ai toujours eu plutôt une belle vie. J'ai jamais été dans des situations difficiles. Donc, cette belle vie-là, la vivre, c'est dur. Ça me fatigue beaucoup. Être avec les... Parce que cette vie-là, elle est entourée des gens que j'aime. Et être avec les gens que j'aime... C'est du bonheur, je les aime, mais ça me coûte super cher. Ça me pompe, c'est hyper, hyper vampirisant pour moi, mon énergie. Je suis tout le temps en train de... Tu vois, avec cette histoire d'empathie, d'aller-retour, moi, l'autre, ça me met dans des situations qui me demandent beaucoup d'énergie. Je veux que les gens que j'aime, je veux leur bien qu'ils voient bien que je les aime. Mais bon, en même temps, de temps en temps, il y a des trucs qui me gonflent. Mais bon, je sais pas trop comment... Enfin, bon, tout ça, c'est compliqué pour moi. Et donc, j'ai besoin de partir. Depuis toujours. Donc,
de découverte.
Ouais, mais déjà de partir, c'est-à-dire qu'un voyage, même si le voyage en lui-même finalement m'a pas trop plu, ça a répondu à un premier besoin de survie qui était de partir et d'un ailleurs et de me sortir de mon quotidien.
Et ça, tu l'as
Donc,
identifié très jeune ou c'est venu plus tard, enfin.
j'ai commencé à le faire jeune. Je peux, enfin, quand je dis jeune. De partir comme ça, par exemple, j'étais jeune et j'étais mariée et j'avais mon fils, il était petit et je partais une semaine dans un club, je ne sais où, tu vois, en fonction des moyens que j'avais. Mais maintenant, je sais exactement le type de voyage que j'aime, etc. Et puis j'ai plus de moyens pour le faire. Mais à ce moment-là, je savais pas ce que c'était, mais il fallait que je parte. Enfin, c'était,
T'avais besoin d'air.
j'en avais marre, j'avais besoin d'air, ouais. Alors que j'avais pas de difficulté particulière dans mon couple. C'était pas fuir une situation difficile. C'était, j'avais besoin d'air. Tu m'as dit, c'est exactement ça. Mais j'ai, en fait, cette histoire enfin, faux self ou de, cette histoire d'énergie que je dépense pour vivre, cette énergie que ça me coûte, quoi. Je sais pas, ça a toujours été là quand même parce que j'ai fonctionné par révolution, je sais pas comment dire, c'est que je me contrains, mais c'est ça le faux self, hein, je me conforme, je me conforme, je me conforme, bim, ça pète et là je fais un gros coup d'éclat. Premier coup d'éclat, moi quand même que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté l'école après 3 semaines de la terminale. Donc c'est-à-dire que j'ai jamais eu de problème scolaire, je suis en terminale depuis 3 semaines. Et j'ai été voir le censeur pour lui dire que ça avait assez duré quand même tout ça, cette mascarade un petit peu quoi, je lui ai dit, hein. Et que franchement ça faisait quand même un bon moment que ça m'intéressait plus, donc j'arrête. Je suis allée la voir avec une copie où il y avait un 20 sur la copie, donc tu vois c'était vraiment pour dire bon bah
C'est bon, j'ai
j'en ai
assez
marre.
joué, quoi. Mais c'est
Ouais,
énorme. C'est
c'est
énorme parce qu'en
énorme
plus, tu
de
es à quelques mois de ton bac, qui est quand même la finalité de toutes ces années précédentes. Et
mais
toi, tu
ces
vas le
années
voir
qui
avec une
m'intéressaient pas,
assurance
ouais.
et un aplomb incroyable. Tu m'en avais un petit peu parlé, mais ouais.
Ouais.
Et t'as
Ah ouais,
aucun doute.
c'est incroyable.
T'as aucun
Ah
doute.
non, non, non. Ah non, j'ai aucun doute, j'y vais. Ça y est, c'est enfin moi, quoi. Et ça, quand même, c'est une deuxième naissance, hein, pour moi d'avoir fait ça. C'était vraiment chouette, quoi. Bon, évidemment, mes parents l'ont pas pris de la même manière. Quand je suis rentrée chez moi, mes parents étaient divorcés, donc j'ai d'abord annoncé à ma mère. Et puis ensuite, on a annoncé à mon père, donc il a pas du tout bien pris. Je peux comprendre complètement, surtout que lui, il vivait pas avec nous, il voyait pas quand même que j'étais dans un mal-être. Voilà. Bon. Mais bref, tout ça pour dire que je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi. Et à un moment, c'est comme deux forces qui s'opposent. Tu sais, les jeux qu'on fait en coaching, ou enfin bon, moi j'ai jamais fait celui-là personnellement parce que je l'aime pas trop, mais où tu tires sur une corde, deux équipes, parce que moi j'aime pas l'histoire de qui va être le plus fort, ça m'intéresse pas trop, mais bon, et ben c'est un peu ça quoi. Donc en fait, je me conforme et où dans mes années, mais encore maintenant, des fois je me rends compte, une autre façon de le faire, de me conformer, c'est de me mettre sur pause. J'ai cette conscience-là, je me rends compte de ce qui se passe. Je mets sur pause mes questions existentielles. Bim, je mets sur pause. Et là, je m'auto-persuade. Mais ça marche presque un petit peu. Je sais pas comment dire. Je change de peau. Et oh, tout ce qui en vrai m'intéresse pas vraiment. Mais oh, bah, c'est génial et c'est super. Et j'arrive à je sais pas comment dire,
Te convaincre.
me convaincre que cette vie là, ouais, c'est sympa, c'est chouette et tout, d'aller au ciné, c'était super et tout ça, ça suffit. Puis bon, il y a un jour où c'est plus possible, quoi. Hein, je me réveille, j'ai un peu envie de vomir, quoi, parce que il y a le vrai moi là-dedans qui dit bon bah ça a assez duré, ça,
Ça
on
finit
arrête
toujours
la
par
comédie
rattraper,
ou
hein.
pas? Bah oui. Et là où ouais, toutes mes questions de mais c'est quoi le bonheur? C'est ça la question qui m'occupe depuis toujours. Et est-ce que c'est ça? En fait, moi j'ai une de mes valeurs ou de mes questions, c'est l'absolu. Je sais pas comment dire, mais c'est, il faut, ma seule ambition, c'est d'être heureuse. Mais du coup, c'est quoi? Et après, j'ai plein de questions. Mais est-ce que là, je suis heureuse ou pas? Est-ce que ça? Et dès que je pense que j'ai une réponse, en revanche, si je pense que non, ah là, c'est impossible, je ne peux plus. Je suis hyper entière là-dessus. C'est marrant. Je peux essayer de me fourvoyer un temps, mais dès que je me fourvoie plus, en revanche, il faut que j'entende la réponse. Donc sinon, je suis pas heureuse. Bah alors là, que j'ai la frousse ou pas la frousse, va falloir que j'assume et que je prenne les décisions pour y aller parce que bah personne n'est payé pour le faire pour moi. Et donc là, j'y vais. Là, ça fait des dégâts. Comme quand j'arrête l'école, ça fait des dégâts, hein, ça c'est clair. Quand je prends d'autres décisions importantes dans ma vie, ça fait des dégâts. Mais c'est mon instinct de survie. Je pense que j'ai un très très bon instinct de survie. Mais je pense que mis en face de cet instinct de survie, j'ai cette espèce de la faux self ou d'envie de faire plaisir à tout le monde qui est très forte aussi. Tu vois où je vais me conformer quoi aux attentes, ça m'énerve tellement. Mais bon, bah l'instinct de survie se réveille, c'est deux trucs qui s'affrontent toujours et puis bah ça me fait avancer. Mais grâce à ça, j'ai vachement avancé, hein, j'ai fait plein de trucs dans la vie et je suis exactement là où je voulais être, donc je suis hyper contente. Mais c'est même si je suis où je voulais être, je pense que peut-être qu'il y a autre chose encore, mais je sais pas ce que c'est quoi.
Ouais, bah après chaque chose en son temps, mais
oui.
Après. Moi, ce que je me dis, c'est que si t'es quelqu'un aussi de très sensible à l'autre, forcément, c'est un peu un risque, ça peut être un piège, en fait, d'être rapidement happé par ce que tu décèles comme attente ou ce que tu estimes être une attente, puisque des fois, on peut se tromper aussi, hein, mais... Et ça peut être un guide assez fort, et c'est pas... Enfin, tu vois, je comprends un petit peu comme ça ton cheminement où tu dis des fois je me fais happer par ce faux self et j'arrive à me convaincre mais parce que peut-être qu'il y a des choses en toi qui sont remplies aussi à ce moment-là.
Oui.
Peut-être temporairement et puis un jour ça ne l'est plus et puis tout d'un coup ça te paraît la balance tu vois se déséquilibre.
Et ouais là, c'est ça.
Tu peux plus jouer de là, quoi.
Je suis rattrapée par moi mais j'ai toujours conscience de ce que je fais quand je le fais. C'est d'ailleurs du coup pas très drôle, enfin pas très drôle, c'est fatigant parce que c'est sans concession quoi et je suis sans concession et j'ai toujours conscience que je mets en pause. Donc je sais pendant tout le temps où il y a toujours une partie de moi qui sait que c'est pas pour de vrai que je suis satisfaite de ça. Voilà, c'est le mot satisfaction. Que c'est pour de faux quoi.
Ouais. Est-ce que ça a changé quelque chose en fait depuis que tu as passé le test?
Bah ouais, déjà je fais cette analyse là, c'est-à-dire que je comprends ce qui était en jeu.
Ok.
Et
tu le conscientises?
Oui, je savais ce que je faisais, enfin, mais je savais pas pourquoi et je savais pas cette histoire de faux self et avec la sensibilité, moi je pensais qu'on était tous sensibles comme j'étais sensible, quoi, ça me paraissait normal qu'on ait... Alors je voyais bien qu'il y avait quand même des gens qui avaient plus de mal à ou en parler ou à le montrer, mais j'avais pas du tout imaginé qu'on pouvait le ressentir avec une intensité différente et que la place que ça occupait, j'avais pas spécialement réfléchi à ça. La place que ça peut prendre, tu vois, à certains moments d'être complètement embringué dans un truc autour de ses enfin bon bref donc
ça t'aide à prendre du recul par rapport à ça,
oui,
à mieux te comprendre. Et,
ouais c'est ça, à l'expliquer ça va pas m'aider à m'assouplir quand même dans la vie, j'ai l'impression, parce que du coup depuis que je le sais, est-ce que j'ai plus conscience de ce que je suis ou est-ce que je m'autorise plus à être comme je suis, j'en sais rien. Mais je sens que je suis plus très fan de mon faux self, quoi, tu vois. C'était pas vraiment mon ami, je dirais pas ça, mais j'avais l'impression que c'était une partie de moi. Maintenant, j'ai envie de le rendre à je sais pas qui, mais et du coup, le vrai moi, si je le laissais vraiment sortir, j'ai l'impression, waouh. Donc, tu vois, j'essaye toujours quand même bien de me tempérer parce que du coup, ça pourrait être violent, je pense un petit peu.
D'accord.
parce que, tu vois, moi, j'ai vraiment une grosse. J'ai toujours été dans des opposés très francs. Et c'est ça, hein. Le faux self, c'était chez moi, c'est en même temps, je veux être la bonne petite fille douce. Alors j'essaye vraiment d'être douce. Bon, je suis pas douce, hein, mais tu vois, douce dans son intention envers les autres, ça c'est vrai. Mais donc dans son comportement irréprochable, quoi, tu vois, qu'on puisse rien. Et en même temps, je suis tellement moi des fois, je m'affirme, c'est vrai. Alors là, j'ai dans mon mode de vie, en tout cas, je suis hyper affirmée sur qui je suis, sur mes choix. Je suis hyper, hyper, hyper indépendante, volontaire. Bah, tu vois, donc c'est quand même, oh, la petite fille toute douce qui dit rien. Et l'autre qui pas du tout, je te pose le truc sur la table et je te dis, ah ben non, mais moi, ça va pas
être. Et j'ai besoin de personne.
Ouais, voilà. Mais carrément, parce que moi, je me suis fabriqué une vie, en revanche. Je suis en autarcie totalement.
C'est-à-dire, vas-y, raconte.
C'est moi le chef, hein, dans ma vie, hein. J'ai un homme dans ma vie, mais on vit pas ensemble, hein. Donc quand même, tu vois, je prends toutes mes décisions du coup. J'ai ma propre entreprise. Je travaille avec les gens que j'aime bien. Tu vois, je prends des décisions. Tout repose sur moi. Tout ce que je fais, et je fais plein de trucs, c'est que grâce à moi. C'est-à-dire qu'il y a rien qui arrive tout seul. Puisque donc je suis toute seule, alors tu vois, je suis toute seule, j'ai des enfants, ouais. Mais ils sont grands et je me sens encore.
Et c'est le résultat de tes actions, mais tes choix.
Voilà, comment je vis tout ce que je fais, je me le dois qu'à moi et ça m'apporte une grande satisfaction. Je sais pas pourquoi, mais j'ai du contentement à ne rien devoir à personne. Tu vois, c'est un truc hyper important pour moi. Je dois rien à personne, mais. Et donc, je me suis créé ma vie et mon monde maintenant où les choses dépendent de moi. Et où ce qui m'arrive de positif, enfin, ce que je peux m'offrir, par exemple, les voyages, bah, c'est grâce à moi. Et je sais pas pourquoi c'est si important, mais je suis hyper contente de ça.
C'est le plus important. Au final, c'est pas toujours de comprendre pourquoi, mais si le ressenti est super positif, c'est que c'est
oui,
gagné.
Oui. Ouais. Donc ça, c'est sûr.
Tu as toujours été indépendante dans ton travail, dans ton activité professionnelle ?
Non. J'ai bossé en entreprise des années. J'étais d'abord libraire pendant une petite dizaine d'années. Ça, c'était ce que je voulais faire depuis toute petite. Et puis après. J'ai fait des études, je peux pas dire j'ai repris parce que bah du coup j'en avais pas fait des études puisque j'avais arrêté avant le bac. Donc là j'ai fait des études, j'ai bénéficié d'un fonds GESIF et pendant un an j'ai fait un DUT pour me reconvertir et je voulais bosser dans les ressources humaines et tout de suite rapidement ce qui m'intéressait c'est de bosser dans le domaine de la formation. Donc après j'ai rebossé en entreprise, enfin continué à bosser en entreprise pendant j'aurais pas trop de dire, une petite quinzaine d'années ou 12-13 ans, je sais plus, dans le domaine de la formation. Mais donc, je bossais par exemple chez Conforama, au siège social, en tant que chef de projet formation pour mettre en place des formations pour les collaborateurs. Quoi, je les animais pas, les formations, mais je rencontrais plein de formateurs, et je les sollicitais pour travailler sur des formations. Je fais un peu d'ingénierie. J'avais fait quelques petits cours du soir après mon diplôme aussi, pendant que j'étais chez Confo.
Des petits cours du soir. Ouais. À côté du boulot et de la vie de famille.
Ouais, alors, Ouais. Alors, pour de vrai, c'était. Alors, ça aurait pu être beaucoup. Dans mon intention, c'était beaucoup. C'est-à-dire que je voulais effectivement avoir. Des DU en fait de sur de l'ingénierie de formation, tu vois, continuer à avancer puis à me former. Et en fait je m'ennuyais tout de suite très vite pendant les cours du soir, ce qui fait que j'ai commencé les cours et puis j'y allais pas vraiment après, et puis je passais les examens, puis ça se passait bien les examens, tu vois. Donc c'est des petits cours du soir parce que ça aurait pu être une grosse contrainte au départ. Quand j'y allais dans l'idée que ça allait être cette contrainte et j'étais prête à le faire. Mais j'étais dans cette dynamique d'apprentissage, c'était génial, quoi. Donc j'avais envie. Puis quand j'ai vu qu'en fait, j'apprenais pas grand chose, que j'avais déjà quand même bien appris des trucs pendant mon année, là, potassé, etc. Bon, finalement, après, j'y allais plus trop. Mais, voilà.
Et comment ça s'est passé la période entre, l'arrêt des études? la terminale. Ouais. Et ton travail de libraire, enfin, est-ce que c'est ton premier boulot? Enfin,
c'était mon premier
boulot.
Comment
tu t'es retrouvée à être libraire? Est-ce que libraire, c'est quoi? C'était ta boutique ou est-ce que tu étais employée dans une librairie?
Déjà, après avoir arrêté mes études, j'ai traficoté pendant un an, on va dire. C'est-à-dire pendant un an, je faisais les cantines dans une école. Je m'étais inscrite parce que je passe ma vie remplie de culpabilité, tu vois. Entre le faux self et le vrai moi, quand il y a le vrai moi qui a tout fait péter, évidemment qu'après, je culpabilise un peu. Je sais pas, il y a une partie de moi qui dit bon, quand même. Donc je m'étais inscrite au CNED pour passer mon bac par correspondance.
D'accord. Ok.
Et en fait, dans les faits, je m'étais inscrite parce que je culpabilisais, mais j'ai jamais trop regardé les cours et tout ça, donc je l'ai pas passé le bac par correspondance. Après, j'ai vraiment réussi à assumer complètement d'avoir arrêté. Donc j'ai traficoté pendant un an, je crois. J'ai pas fait grand chose, mais je travaillais un peu. Comme ça, je te dis les cantines. Ah si, je dis n'importe quoi, parce que j'ai fait une formation de décoration d'intérieur pendant ce temps-là. J'oublie ça, ce truc-là. C'était une formation sur 6 mois, donc c'était hyper intéressant. J'aimais bien, moi, faire les plans avec mon petit rotring, tout ça. C'était pas mal. Et puis bon, après, je me suis dit quand même, une fois que j'ai eu fini ça, je me suis dit, évidemment, j'ai 18 ans à peine.
Ouais. D'accord.
Je me suis dit, je vais pas être décoratrice d'intérieur, soyons clairs. Et j'ai pas trop envie de bosser dans un bureau d'études à décalquer des plans toute la journée. Donc là, je suis à nouveau un peu dans l'incertitude. De toute façon, moi, j'étais, je pense, dépressive ado, au lycée. Ce qui a mené à j'arrête l'école, c'était quand même pas, c'était pas la grosse fiesta intérieure. Donc je savais pas ce que je voulais faire. Mais quand même, depuis petite, je voulais être libraire. Mon stage de troisième d'observation, je l'avais fait en librairie. Hein, je mettais des fiches dans les livres avec des petits, je me souviens, j'étais toute petite, hein, mes parents, c'est des lanceurs intello, mes parents, il y a des livres partout à la maison, et j'avais des tampons en bois, là, avec les animaux de la ferme, et je mettais des petites fiches vertes dans les livres, et je tamponnais avec la poule, là, je m'en rappelle, pour t'emprunter ce livre, tu vois, je jouais avec les livres. Donc ça, c'était plutôt un peu bibliothécaire, mais j'avais ce truc d'être libraire. Donc un jour je me balade au centre commercial à côté de chez moi et je vois qu'il y a une FNAC qui va ouvrir et moi je me dis mais j'ai toujours voulu être libraire, je fais une lettre de candidature spontanée pour postuler sans savoir qu'il y avait une annonce qui était parue dans le Figaro, qu'il y avait des tonnes de personnes qui avaient répondu, c'est qu'ils étaient dans un gros process de recrutement. Moi comme ça, je vois que ça ouvre, je fais une petite lettre.
Ça t'avait été du stress inutile.
complètement. Et puis j'ai été contactée tout de suite parce que c'était un peu la fin de la période de recrutement. Donc j'ai été contactée très très vite par le cabinet de recrutement à Paris qui m'a fait une session de recrutement le matin avec des tests un peu psychotechniques de je ne sais quoi, enfin je sais pas, ils avaient fait une batterie de tests. Et un entretien, je crois. Et la fille me dit, cet après-midi, restez là, ou si vous pouvez revenir cet après-midi, vous rencontrez la responsable de la librairie qui vous fera un entretien, puis j'ai été embauchée. Donc, ça a été hyper facile, tu vois. Une envie que j'avais depuis toujours, une balade dans le centre commercial, une lettre, bim, j'ai été embauchée. Et j'ai été libraire à la FNAC. Et c'était génial, la FNAC, hein, quand t'es libre, à l'époque. À l'époque, parce que quand t'es libraire et que t'as pas ta librairie et que t'es tout jeune et que tu bosses pour un patron, la librairie du coin, toi, tu fais presque que la manute. C'est le patron qui va voir les représentants, qui va commander les bouquins, qui va... Vraiment, tu vois, il te fait pas faire ça. Moi, à la FNAC, du haut de mes 19 ans, je gérais tout mon rayon et autant te dire, on m'a filé le rayon ressources humaines.
Ah, comme par hasard.
Comme par hasard. Hyper compliqué quand même quand tu connais rien. Hein. J'étais super jeune, tu vois. Qui est hyper étendu parce que ressources humaines, t'as, la psychanalyse, le développement personnel, bien sûr. T'as, la pédagogie, etc. Et puis t'as l'ésotérisme, la philosophie. Enfin, t'as des trucs. La sociologie. Enfin, j'y connaissais rien, quoi. Hein, moi, j'avais arrêté 3 semaines après le bac. Hein. Donc même la philo... J'ai eu un cours de philo ou deux. Je m'étais dit, waouh, c'est bizarre ce truc. Et puis, tu vois. Donc, c'était une période géniale à la FNAC parce que la FNAC était pas du tout informatisée à cette époque-là. Donc, il fallait tout avoir dans la tête, quoi. Connaître ton rayon. Tu travaillais avec les catalogues des éditeurs. Je rencontrais tous les représentants. C'est moi qui commandais tous les bouquins. Enfin, c'était super sympa. Et puis j'ai bossé, je pense, 8 ans à la FNAC et j'adore les gens, moi. Donc j'adorais les clients, ils m'adoraient aussi. Enfin, franchement, c'était chouette. J'adorais cette alternance. Tu vois, c'est que maintenant que j'y pense. Je disais toujours que moi, ce que j'adorais à la FNAC, c'était un tiers. C'est que c'était hyper diversifié. Un tiers de Manut. Et moi, j'adore ça. Parce que donc, tu penses à rien. Je traduis maintenant, tu vois. Ouais. Tu penses à rien, tu ranges tes bouquins, tu portes, ouais, exactement, tu portes les caisses, et c'est du boulot et c'est dur.
Oui. Donc, c'est pour ça que tu penses à rien.
Exactement. Et puis, tu rentres chez toi, t'as la sensation du travail qui a été réalisé parce que t'es fatigué aussi dans ton corps. Un tiers de relation client. Avec les gens, coucou, bonjour, sourire, tout ça. Et un tiers de travail un peu plus avec ta tête, avec les représentants. De réfléchir, de qu'est-ce que tu vas lui commander? Ce livre qui sort là, bah ouais, tu penses que tu vas en vendre combien? Tu vois, le représentant qui te présente entièrement toutes les parutions à venir, quand même, de ton rayon. Et puis toi qui dis, non mais ça, j'en prends pas, ça, ouais, j'ai le public pour, enfin voilà, donc quelque chose d'un peu plus challengeant.
Ouais, puis avec de l'autonomie aussi, apparemment, puisque c'est
complètement autonome
ce que tu commandais.
Ah ouais, 100%.
Donc une liberté dans ton travail, oui.
Exactement. Donc voilà, ça a duré un petit temps dans le rayon ressources humaines, mais moi, le rayon que je préférais, que j'ai eu ensuite, c'est le rayon jeunesse. Et je me suis éclatée, j'ai adoré le rayon jeunesse. C'est une librairie dans la librairie, le rayon jeunesse, les albums. On a des services de presse quand on est libraire. J'ai une collection d'albums pour enfants qui est fabuleuse, quoi, qui sera pour mes petits-enfants maintenant. Mais ouais, génial. Donc voilà, je me suis éclatée, puis au bout d'un moment, j'ai commencé à sentir que les gens commençaient à m'agacer. Alors, il y a plein de libraires qui sont pas du tout aimables. À peine tu vas les voir sans leur dire bonjour, ils disent bonjour. Enfin, tu vois, comme si on leur faisait un truc à eux. J'ai toujours trouvé ça horrible d'être comme ça. Et j'ai commencé à sentir que j'étais un peu moins patiente, que je commençais à m'agacer de choses. Et mon ennemi de toujours, ça a toujours été... Enfin, je sais pas, j'aurais l'impression d'avoir raté ma vie si je devenais aigrie. Je trouve ça horrible d'être aigrie. Parce que vraiment, fondamentalement, je suis joyeuse, quoi. Et
ouais, il faut du
j'aime
plaisir.
Les autres. Hein?
Il faut du plaisir.
Dans oui, c'est ça. Et plaisir. Je suis dans une énergie positive. Et alors là, me laisser devenir un truc qui est mal aimé. Enfin, bon, bref. Donc, je me suis dit, bon, là, ça sent le roussi. Faut que je change. Et j'avais mon fils qui avait 2 ans à ce moment-là. Donc, ça me prenait quand même vachement d'énergie aussi, hein. Et ça avait fait que j'avais tenu quand même à la FNAC pendant assez longtemps, 8 ans. Moi, j'ai des cycles assez longs. Parce que dans chaque cycle, tu fais des enfants. Je trouve qu'en tant que femme, tu fais un enfant. Déjà, pendant toute la grossesse, moi, je suis incapable de penser à autre chose que de penser à ce que je suis en train de fabriquer. Donc, ça m'occupe pas mal. Et je sais même pas comment on peut faire pour travailler quand on est enceinte. C'est vrai que quand j'attendais mon fils, vu que c'était très physique le boulot, j'ai été arrêtée à 4 mois et demi de grossesse, tu vois. Et ça, vraiment, ça m'arrangeait bien parce que rien m'intéressait plus que ce que j'étais en train de faire dans moi.
À ce moment-là. Ouais.
Ah ouais, et moi, mes émotions, et ça prend toute la place, quoi. Et j'ai bien conscience qu'après, il en reste plus beaucoup pour le reste, puis il faut se forcer. C'est difficile, quoi. Hein. J'ai toujours du mal à me forcer, quand même.
Hein. En même temps, ce sont des périodes aussi tellement, uniques dans une vie.
Mais oui, qui en plus.
Profiter au maximum.
Oui.
Quand c'est possible.
Et ça te sort tellement de ce qu'est ta vie à ce moment-là que ça te permet de réfléchir, de remettre les choses en perspective, de se reposer des questions sur ce qui on est, ce qu'on veut, etc. Bon, donc ça, voilà. Donc après, j'ai changé. Voilà.
Qu'est-ce que tu dirais si t'avais quelqu'un en face de toi qui hésite à passer le test ou qui se pose des questions mais qui a peur peut-être d'y aller? Est-ce que t'aurais envie de passer un message?
Juste par rapport
à ton expérience, bien sûr.
Bah oui, donc déjà, j'aime pas trop donner des conseils, mais si c'est moi qui parle mon élan, là, je te dis, oh, vas-y. Parce que dans mon cas, en plus, c'est un cadeau qu'on m'a fait là, puisque j'avais pas demandé. Vraiment, c'est un cadeau, hein, de encore mieux se connaître. d'apprendre ça, d'avoir des clés. Moi, j'ai eu l'impression, quand je l'ai passé, parce que ça, c'est un truc que j'aimerais bien le partager, tu vois, ça répond pas du tout à ta question, donc j'ai répondu, je dirais vas-y, mais juste sur basé sur moi. Peut-être que ça peut être dur pour certaines personnes et que je j'entends bien qu'il y a des gens qui disent, hein, moi, j'ai pas très envie de le faire. Bon. Peut-être parce qu'ils ont peur d'un truc qui pourrait arriver. Moi, j'avais peur de rien, je savais pas. Donc,
oui.
Mais ce que j'ai envie de partager, c'est ce que j'ai ressenti quand je l'ai fait, ce qui s'est passé pour moi, quoi. Donc, j'ai eu l'annonce tout de suite. Je me suis sentie sur le bord du précipice. J'étais en état de choc, hein. J'ai fait très attention de pas avoir d'accident de voiture en rentrant chez moi parce que je sentais bien que j'étais très fortement secouée. Très, très, très fortement secouée. Et après, il a commencé à se passer des trucs. Donc, j'ai tout de suite commandé des bouquins, mais le temps que les bouquins arrivent, j'ai ressenti des choses d'une manière un peu plus élaborée. Et j'ai eu l'impression, et c'est très imagé, parce que c'est vrai que je me rends compte depuis que tout ce que je ressens, c'est sous forme d'image. Je sais l'expliquer en prenant une image, et c'était une image très précise. Enfin, c'est même une image... J'avais l'impression... Je ressentais un truc comme si j'avais regardé un film, que j'étais... Tu vas voir que c'est précis. J'étais à 10 minutes de la fin du film et qu'il y avait deux protagonistes dans le film et que 10 minutes avant la fin de ce film, j'apprends que les deux protagonistes sont frères et sœurs. Moi, je le savais pas. Tout le monde le savait, c'est-à-dire que je sais qu'on n'a pas voulu me le cacher dans le film. C'est juste moi, je sais pas pourquoi, je le savais pas. Et en fait, quand je prends conscience de ça, il faut que je regarde à nouveau tout le film. Ça change tout. Tout a bougé. Toute ma compréhension de ce film a bougé complètement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire et pourquoi je l'avais pas compris avant, quoi. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que je me suis pas dit, c'est un film où on apprend, on donne un scoop à la fin. Là, je te dis, j'avais conscience qu'il y a que moi qui ai ce scoop parce que ils ont pas tourné le film pour en faire un scoop. C'est, je sais pas pourquoi, j'avais pas compris ça, quoi.
Ouais, ouais. T'étais passé à côté.
Et là, ils sont frères et sœurs, quoi. Ouais. Oui, exactement.
Et après, dans tes démarches pour comprendre, est-ce qu'il y a, je sais pas, des choses qui t'ont particulièrement aidé, que ce soit un livre.
Oui. Alors bon, j'ai lu pour comprendre ce que ça voulait dire. Donc j'ai lu la personne qui m'a fait le test, elle m'avait conseillé en me disant, elle m'avait conseillé deux bouquins, Jeanne Siofachin, Trop intelligent pour être heureux point d'interrogation, et puis Petit Colin, je sais plus son prénom.
Oui, Christelle.
Christelle, voilà. Et j'ai commandé le Jeanne Siofachin, peut-être par hasard. Enfin bon, et pour moi, il me paraît assez neutre. Donc ça expliquait bien ce que c'était. Bon, je me suis pas vraiment reconnue partout. De toute façon, étape 1, elle me fait le test. Étape 2, je me dis, c'est pas possible. Elle a dû se tromper. Donc je suis retournée la voir et je lui ai dit, mais attends. Faut que je revienne te voir pour te reposer des questions. Et je lui ai dit, mais t'es sûre que tu t'es pas trompée? Ça, c'était très fort. Je me disais, en plus, elle me connaît. Ça se trouve, elle a voulu me faire plaisir.
Oui, c'est ce
tu
que
vois.
Je pensais, ouais.
Ouais.
Ça peut
elle me dit, mais non, pas du tout. Et là, elle m'explique les points qu'elle m'a pas donné à tel endroit, à tel endroit. Je me rappelle très bien. Et ce qui est marrant, c'est que le truc fou qui m'empêchait, enfin, qui était très très fort, quoi. Je tournais en boucle là-dessus, c'est qu'à la fois je me disais, non mais c'est pas vrai. Et à la fois je me disais, j'aurais pu faire vraiment, vraiment, mais vraiment mieux, hein, à ce test, hein.
Ah,
c'est-à-dire
oui.
Qu'alors qu'elle m'a sorti un truc où, laisse tomber, il n'y a aucun doute de... Enfin bon, bref, le truc oui. Déjà, enfin, qui est ahurissant, tu vois.
Oui.
Mais je sais. Que j'aurais pu faire 1000 fois mieux à ce test, quoi. Presque j'aurais envie de le repasser pour lui dire, t'as vu, mais je peux faire mieux. C'est incroyable, quoi. Mm. C'est incroyable de découvrir cette partie-là de moi, tu vois.
Oui, je vois. C'est pas pour avoir un meilleur score, mais c'est la satisfaction de réussir, en fait.
Ouais, d'être sûr qu'il enfin, d'être sûre qu'il représente exactement le bon niveau, le parce que quand même, j'avais un petit peu bu, tu vois, le meilleur. J'ai peut-être pas vraiment donné le meilleur. Et en même temps, je pense que c'est pas possible que ce soit moi, tu vois.
Oui, et puis c'est pas là l'essentiel, en fait.
Non. Du tout. Mais quelque part, si je ressens ça à un moment, à un endroit de moi, ça l'est peut-être. Mais non, mais le pire, c'est que les deux cohabitent et que les deux sont aussi vrais. C'est que je suis en train de dire à la fois, waouh, je pourrais, c'est pas possible que ce score, enfin, ou cet indice, ou je ne sais quoi. Non, c'est quand même pas possible que ça soit moi. Et en même temps, je te dis, bah, si. Et d'ailleurs, ça devrait être peut-être plus haut, puisque je pense que j'aurais peut-être pu faire mieux. Le truc incroyable, quoi. Enfin, l'ambivalence totale. Et les deux étaient très vrais, et j'étais, voilà, là-dedans. Bon, encore, donc, je me reconnais pas partout, par exemple, dans les bouquins, et c'était déstabilisant, hein. Mais moi, alors, je finis ma phrase. Ce qui était déstabilisant, c'est que quand même, du coup, ben, moi, je me reconnaissais pas dans, j'étais à l'écart des autres.
Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein.
Ouais, toute cette partie-là, pas du tout. Non, je me reconnais pas du tout. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire, du coup, mais voilà, ouais, non. Et puis, à la fois, je lisais ces bouquins avec un stress absolu, quoi, parce que je me disais, puisqu'elle a dit ça, je devrais me reconnaître là-dedans. Donc, quand je me reconnaissais pas, je me disais, ah ben, donc, ça renforçait ce truc de, ben non, ben, c'est pas vrai. Tu vois? Et alors, j'ai eu besoin d'autre chose aussi. Je veux absolument pouvoir placer ça. Le temps passe et je voudrais pas oublier de dire, mon besoin, très vite, c'était plus de comprendre ce que c'était le haut potentiel, parce que ce que j'ai bien compris, c'est que de toute façon, on est tous différents, voilà. Mais j'aurais eu besoin de rencontrer plein de gens, d'aller à une soirée tranquillou, tu vois, pas de pression, petite soirée, où tu rencontres des gens qui sont comme ça et où tu peux papoter, mais dis donc, ça t'a fait quoi, toi, de le découvrir? Bon. Mais ça, pas facile, hein, de trouver cette soirée, donc, bon, bah, j'ai pas trouvé. J'ai autour de moi une cliente, quelqu'un que j'ai coaché, puisque je fais du coaching. Et comme par hasard, cette personne avait fait appel à moi. Alors, hasard. Donc, moi, je l'avais eu en formation dans son entreprise. Et elle est venue ensuite me demander de l'accompagner à titre individuel en coaching, mais en tant que particulier, quoi. Pas du tout payé par l'entreprise. Et donc, c'est pas un hasard qu'elle ait accroché avec moi. Bien sûr, c'est ce qu'on s'est dit ensuite. Et tout de suite, dès qu'on a commencé le coaching, elle m'a dit qu'elle était haut potentiel. Voilà. Donc, quand moi, j'ai su ça, ben, je l'ai appelée, quoi. Et je lui ai dit, oh là, mais il faudrait qu'on... Le coaching était fini, hein. On avait une relation, enfin, c'était sympathique, notre relation. On était restés en contact, même si le coaching était fini, quoi. Et là, je lui ai dit, bon, attends, faut qu'on se voit, qu'on boive un verre ensemble. J'ai plein de questions à te poser, parce que je viens d'apprendre un truc, je suis toute chamboulée. Voilà. Donc, voilà. Et puis sinon, je me suis mise à écouter des podcasts. Parce que dans les bouquins, ça raconte un peu toujours la même chose, je sais pas.
Oui, on tourne en rond au bout d'un moment, ouais.
Ouais. Alors après, il y en a un que j'ai pas encore complètement lu, Les Surdoués et les autres, qui est beaucoup plus psychanalytique. Je t'avouerai que, donc c'est Carlos Tinoco, Sandrine Gianola, parce que... À chaque fois, on dit qu'une personne, donc moi, je vais dire les trois. Philippe Blasco, en fait, il était sur le coin de mon bureau. Penser l'écart. Je pense qu'il va être intéressant, mais alors, c'est beaucoup plus intello. Et moi, j'aime bien les trucs praticaux. Enfin, donc, le côté, je croirais entendre ma mère, quoi. Ma mère est psychanalyste. Et je pense que je tiens ça de ma mère. Puisqu'on dit que c'est un peu génétique. Si, dans ma famille, bon, bah, ma mère, très clairement. Et donc, je vois bien que c'est plus difficile pour moi de rentrer dedans, mais je vais m'accrocher, je vais y aller.
Il se lit pas comme un roman, du tout.
Non, puis moi, je suis pas patiente.
Mais il est pas évident. Enfin, moi, il y a des tournures de phrases et qu'il a fallu que je m'accroche et que je les relise plusieurs fois, tu vois, pour bien les comprendre.
Ouais.
Mais moi, c'est un livre que j'ai adoré. J'ai trouvé que livre le plus juste, en fait, dans son explication et dans son approche du sujet, le plus précis. Et c'était le premier livre qui m'apportait vraiment un éclairage, qui m'a aidée après à mieux comprendre ce que ça commence à jouer en moi, en fait, tu vois.
Ouais, j'entends. Mais j'ai entendu d'autres personnes le dire, et du coup, bon, bah, je vais m'accrocher, mais je vais surtout vachement le conseiller à ma mère parce que ça lui plaira.
Ouais, mais c'est peut-être pas à lire le soir avant de t'endormir, tu vois, comme moi je le faisais des fois.
Ouais.
Il vaut mieux être.
Mais je vois bien que c'est des psychanalystes, quoi. Tu vois,
Oui, mais ce qui est intéressant. En plus, ils sont trois. Et donc, ils ont trois regards différents.
J'ai pas entendu la voix de Philippe encore.
Ouais, mais tous les trois sont vraiment intéressants. Mmh. Du coup, ça a créé un bon équilibre dans le dans l'ensemble du bouquin.
Et moi, ouais, c'est plus exigeant en termes de d'attention. Et moi, j'ai, tu vois, j'ai eu juste ce test-là, mais depuis, j'ai pris conscience d'un truc à fond, quoi. J'ai des petits soucis d'attention. Alors, c'est peut-être pas des soucis d'attention, c'est peut-être lié au haut potentiel et à la façon dont... Donc, c'est peut-être, mais, ouais.
De concentration.
Faut que je fasse trois trucs en même temps. Ah, bah ouais. Je peux pas lire un truc trop long. Oui, j'en ai marre très vite. Je m'ennuie au bout d'un moment dans la lecture. Si j'écoute alors, j'écoute vachement de podcasts en voiture. Parce que du coup, en voiture, tu conduis, tu peux pas bouger, quoi. Mais si j'écoute, je sais pas moi, un petit truc sur YouTube, j'en sais rien, bah, faudrait que je joue à Candy Crush sur mon téléphone en même temps pour... sinon, je vais jamais au bout des trucs.
Ouais. Bah ouais, puis bon, on est
dans... Je lis 10 pages, ouais. Je lis en anglais en plus, parce que je trouve ça plus drôle. Je suis pas fluente, hein, mais enfin, moi, je comprends quand même vachement bien ce que je lis, mais tu vois... parce que du coup, maintenant, quand je lis en français, presque ça me gonfle. Alors que c'est bête, hein, parce que je lis des trucs vachement plus intéressants en français. Enfin, moi, j'ai toujours beaucoup lu. J'ai été libraire, tu vois. Donc, il y a des... ce qui est beau dans un livre qui appartient à l'auteur, dans sa façon de... Je le perçois vachement moins en anglais, mais du coup, ça m'amène un petit niveau de complexité, tu vois. Bref, je sais que tu... J'imagine que tu me comprends. Mais je lis... Deux pages, une page et demie, j'ouvre mon téléphone, je check mes mails, je relis un peu, je fais une belote sur mon téléphone, je balance une série. Ça, c'est si je suis pas en train de travailler, bien sûr, je travaille. Hein. Et voilà, et je fais...
On peut se douter. Ouais. Voilà.
Mais, ça, j'en ai plus conscience, j'ai l'impression que...
Après, ça, c'est à nous d'adapter aussi, enfin, tu vois... Par exemple, si je reviens à ce bouquin-là, moi, je sais que ce bouquin-là, j'avais envie de le lire, même si c'était pas facile et que c'était exigeant. Mais j'avais envie de le lire parce que je me rendais compte qu'il m'apportait quelque chose d'important. Et du coup, c'était à moi de m'adapter, c'est-à-dire de pas le lire comme je lirais, voilà, un roman facile qui me détend avant de m'endormir. C'était quelque chose qu'il fallait que j'aborde différemment dans ma journée, que je m'octroie, tu vois, des moments de pause où je peux lire un chapitre du bouquin, oui. Parce que de toute façon c'est pas une histoire, tu peux prendre la table des matières et tu choisis ce qui t'intéresse au moment.
Oui. Alors moi je suis un peu psychorigide, j'ai toujours peur d'avoir raté un truc intéressant, donc je me force.
Au bout du compte, quand t'as fini le bouquin, t'as rien raté.
Ouais.
Mais par contre, en parlant de ça, je vois que ça fait quand même déjà plus d'une heure qu'on enregistre toutes les deux. Toi qui avais peur de pas avoir grand chose à raconter ou de pas savoir comment ça allait se passer, j'espère que t'as passé un bon moment.
Oui,
si tu avais un message à passer aux auditeurs, quelque chose qui te tient à cœur, est-ce que t'as envie de leur dire quelque chose avant qu'on se dise au revoir?
Soyez heureux. Je sais pas. Continuez à creuser sur qui vous êtes. Je sais pas ce que j'aimerais dire. C'est difficile de répondre à cette question. Ce que j'aimerais dire, c'est que moi, d'écouter ce podcast, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais besoin d'entendre, vu que je pouvais pas les rencontrer, des gens partager leur expérience, comment ils l'avaient vécu, qu'on vit tous les choses différemment, et que de me reconnaître un tout petit peu dans chacune des histoires, ça m'a aidé à construire mon propre puzzle, tu vois, et qui est pas fini d'ailleurs, hein, qui est en cours, mais voilà. Et ne pas mettre trop de pression autour de ça, mais laisser cheminer, quoi. Voilà,
ouais.
C'est ça que je voulais dire.
Ouais. Chaque histoire est personnelle, mais en même temps, il y a quand même aussi des choses un peu universelles qui nous parlent et qui font écho les uns aux autres.
Oui, mais oui.
Je te remercie.
Ça rassure.
Ouais, ça rassure. Je te remercie beaucoup, Laure. Je sais que c'était pas facile pour toi, donc un grand merci.
Voilà, merci beaucoup.
Ton courage, un grand bravo aussi, du coup, pour ton courage et ta présence dans ce podcast. À très bientôt.
Merci à toi et belle continuation.
Merci.
Au revoir.
C'est déjà la fin de cette conversation avec Laure. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez faire briller ses étoiles sur la plateforme, votre plateforme d'écoute préférée, ou bien encore mieux, ajouter un commentaire. Pour me contacter, c'est facile, vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif du podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.